Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La cuisine comme remède à la morosité ambiante, il fallait y penser, et pourtant l'on n'en entend pas parler tant que cela. Depuis le début de la crise sanitaire, les incitations sont nombreuses pour faire du sport dans son salon, pour bricoler, se promener, même rapidement relire ses classiques, mais cuisiner, c'était sans compter avec notre invité de ce matin, car la cuisine c'est son rayon, la cuisine de la joie de vivre à revendre, du cœur que l'on donne, mais aussi des convictions que l'on partage. Alors ce matin, pour lutter contre la sinistrose, petit détour par les fourneaux. Nadine Barbotin, cuisinière au grand cœur, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce vendredi matin avec vous. Vous êtes donc auteur du blog Mam's Cook, qu'on va découvrir, consultante et chroniqueuse culinaire, rien que cela, et présidente de l'ASEI, association donc du monde médico-social et sanitaire qui accompagne des personnes handicapées. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. On va donc faire connaissance avec vous. Alors, je me suis dit, en écrivant mon introduction, mon Dieu, que fais-tu ? Parce que peut-être que tu ne lis pas assez les magazines féminins. On a proposé la cuisine comme remède pendant cette crise sanitaire. Je suis passée à côté de ça, docteur, ou pas ?
Mais disons que pendant cette crise sanitaire, la cuisine a fait quand même un vrai retour. Vous savez, il n'y avait plus de farine dans les magasins. Tout le monde s'est remis à faire du pain. Tout le monde a posté ses pains sur les réseaux sociaux. Alors, quelquefois, avec plus ou moins de réussite, il faut bien le dire quand même. Hein, mais la cuisine, c'est la convivialité, c'est donner à ce que l'on aime, à ce que l'on reçoit. La cuisine, c'est aussi de la transmission. La cuisine, c'est la santé aussi, parce que quand on mange bien, on est en bonne santé. La cuisine, c'est beaucoup de choses, en fait.
Alors, on va découvrir tout ça. Donc, vous êtes donc l'auteur d'un blog, Mam's Cook, qui vous a classé, vous m'aviez dit juste en préparant l'émission, vous êtes classé maintenant quoi, parmi les deux ou trois influenceuses culinaires de la place toulousaine, c'est ça ?
C'est ça, exactement. C'est une agence de communication de Montpellier qui a fait un classement et qui m'a classé parmi les influenceuses toulousaines. Voilà, un mot que je n'aime pas vraiment beaucoup, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça.
Voilà, ça veut dire que sur Facebook, donc, vous avez à peu près 2000 personnes qui vous suivent, sur Twitter 3600, sur Instagram 5000. Bref, on parle de vous, Mam's Cook. Il y a même un article donc, dans La Dépêche récemment qui parlait de vous. C'était le 25 février dernier. Toulouse, les bonnes recettes de Mam's Cook, à faire chez soi. Donc Mam's, c'est le surnom que vous donnent vos enfants, et Cook, on comprendra. Si vous deviez nous présenter ce blog, comment... qu'est-ce qu'on y trouve ? J'ai trouvé évidemment quelques posts sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre blog ?
Sur le blog, en fait, le blog est né de l'idée de transmettre des recettes, bien sûr, mais également des trucs, des astuces de cuisine, et puis aussi de la connaissance sur les produits. Parce que je pense qu'il y a eu une forme de panne de transmission dans les générations qui se sont succédées. Et puis, on a oublié d'expliquer ce qu'étaient certains produits qui font pourtant partie de notre terroir et de notre culture culinaire. Par exemple, si je prends un petit produit qui est en ce moment, qu'on commence à trouver sur les étals, qui est l'ail, qui est un jeune ail qu'on ramasse et qu'on peut manger en omelette, qu'on peut mettre dans des salades, qu'on peut mettre dans des tas de préparations. Il m'est arrivé d'être devant l'étal de mon primeur et d'avoir une dame à côté de moi me dire « Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est ?» Et voilà, c'est comme ça que naissent en fait les articles. C'est toujours une réaction à quelque chose que j'entends ou une question qui m'est posée. Donc il y a des recettes et puis il y a ces articles de fond auxquels je tiens beaucoup.
Alors on va y venir, donc on trouve Mam's salé, Mam's sucré, boisson Mam's et donc rencontre Mam's. Alors je me suis baladé aussi sur votre compte Facebook ou sur votre blog et il y a certaines choses qui m'ont mis l'eau à la bouche. Alors avant de...
C'est que c'est bon signe.
Alors avant de retrouver peut-être mes fiches, vous disiez aussi que parfois vous posiez des questions toutes simples. Par exemple, pourquoi les endives sont-elles amères, m'avez-vous dit ? Alors si on commence par ça, pourquoi les endives sont amères ?
Ah oui, alors ça c'est parce que si vous voulez, il y a des choses comme ça, quelquefois les gens... D'abord, on a perdu le sens de manger toutes les saveurs. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des produits raffinés dans lesquels on met que du sucre et que du sel, pour nous inciter à continuer à manger toujours plus ces mêmes produits raffinés, on en arrive à avoir perdu certains types de saveurs. Et la mer en est tout à fait l'exemple. Alors, par nature, l'endive est amère. Cependant, l'endive pousse dans le noir. Donc, quand elle commence à prendre la lumière, le petit bout des feuilles va devenir un petit peu vert. Et en prenant la lumière, ce petit bout des feuilles, il prend de l'amertume. Donc, on n'achète pas des endives qui ont vu la lumière, on achète des endives qui sont bien blanches, qui ont bien poussé dans le sable à l'abri du jour. Et puis, vous avez à la base de votre endive une partie qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme. Et lorsque vous allez préparer votre endive, vous allez enlever cette partie-là. Parce que cette partie-là, elle est dure et elle apporte de l'amertume. Et troisième élément qui fait que votre endive peut être amère, c'est que quand on fait de la salade, souvent, on prépare, on effeuille sa salade et puis on la lave à grande eau. Et puis on la laisse dans l'eau quelques minutes, quelques fois. Et plus vous allez laisser l'endive dans l'eau, plus elle va prendre de l'amertume.
Incroyable. Alors, j'ai retrouvé mes fiches. Ce qu'on trouve sur votre compte Facebook, par exemple, c'était à l'occasion de Mardi Gras. Bugne, paix de nonne, beignets de carnaval. Demain, c'est Mardi Gras et nous mangeons des beignets en tout genre. Et vous posez la question, pourquoi mange-t-on des beignets à Mardi Gras ?
Eh bien oui, pourquoi ?
Pourquoi ?
Ben, c'est tout simple, surtout ici. Je pense quand même que vous avez la réponse. On est juste à la veille du carême et historiquement, dans notre culture, nous sommes une culture qu'on appelle judéo-chrétienne et les fêtes marquent des temps de la religion. Et à ce moment-là, ben, il y avait dans les placards, dans les fermes, il y avait des œufs, il y avait plein de choses. Et puis comme on rentrait en période de carême, eh ben, on finissait tout pour ne rien jeter. Et comme on finissait tout, eh ben, tout à coup, forcément, on se mettait à faire plein de... Alors, c'est
on ne faisait pas forcément des beignets.
On ne faisait pas forcément des beignets.
Des crêpes, bref,
on faisait des crêpes. On
mangeait ce qu'il y avait dans les placards.
On mangeait ce qu'il y avait dans les placards pour ne rien perdre. Et ensuite, on rentrait dans la période du carême. Et puis, pour arriver à Pâques, qui, à ce moment-là, redevient une période où on peut manger et où, à ce moment-là, on fait un repas qui, en plus, est un repas de fête pour des raisons religieuses et qui, en plus, permet de reprendre la nourriture habituelle.
Alors, on trouve plein de choses, si je continue sur les postes. Donc, c'est aussi une cuisine, on va dire, engagée, hein, militante d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Journée internationale des légumes, là, c'était le 9 février dernier. Donc, vous nous alertiez dans un poste. Excellent pour la santé. Nous en consommons à peine 2 kilos par an pour 7 kilos pour nos grands-parents. Mams Cook, c'est aussi une manière un peu de remettre la vraie bonne alimentation dans nos assiettes.
Oui, on a petit à petit pris l'habitude de manger ce qui nous était proposé, entre guillemets, et proposé par les grandes surfaces souvent, parce que on était pressé, on a perdu l'habitude de faire le marché, on n'a plus de jardin parce qu'on n'a pas le temps de faire le jardin.
Les marchés, pardon, je vous coupe, j'avais vu une étude récemment qui disait qu'il y avait seulement 5% des Français qui achetaient leurs produits.
Mais moi, je vous invite vraiment à le faire parce qu'on mange de saison quand on mange avec le marché.
Ça vous surprend un chiffre aussi
faible ? Mais ça ne me surprend pas parce qu'en fait, on est dans une société où il faut toujours aller plus vite, où il faut toujours aller à l'urgence. On a des prix qui nous sont avancés par les grandes surfaces, souvent qui sont très tentants, forcément. Et puis, on ressort en ayant acheté plein de choses dont on n'a pas besoin. Et puis, surtout, on n'a pas mangé de saison, souvent. Parce que... si vous voulez, on a perdu l'habitude. En fait, les légumes, enfin la nature est excessivement bien faite. On a besoin de certains, l'être humain a besoin de certains minéraux, de certains éléments pour aller bien.
Certaines vitamines.
Exactement. Et chaque légume, à chaque saison, lui apporte exactement ce qu'il lui faut. Donc, si vous voulez manger des légumes racines en plein hiver, c'est normal. Et ce qu'il y a à l'intérieur de ces légumes racines est très bon pour nous. Le chou contient des tas de choses extraordinaires. Et le chou, ben, on le mange l'hiver. Alors souvent, j'entends dire...
Aujourd'hui, on se bat pas pour manger du chou l'été. Hein, c'est...
Oui, mais...
Par contre, on mange de tout l'hiver.
Oui, mais le problème, c'est qu'on mange l'hiver des légumes d'été, bien souvent. C'est-à-dire que les gens vont manger de la courgette, ils vont manger des tomates qu'ils vont trouver, qui n'ont pas de goût. Ça n'a pas de goût, ça ne contient pas les bonnes vitamines. Et surtout, ça a poussé en dehors de toute raison. Ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de sens. Le sens, c'est d'être en harmonie quand même avec la nature qui nous entoure. Être en harmonie aussi avec la nature qui nous entoure, ça passe par ce qu'on met dans l'assiette.
Autre poste sur laquelle je me suis arrêté, je me suis dit que j'allais vous taquiner, c'était hashtag février sans supermarché. Alors, ça veut dire quoi et est-ce que vous y arrivez?
Alors, hashtag février sans supermarché, c'est... Alors, le hashtag, vous savez, c'est une borne sur les réseaux sociaux, c'est une balise qui permet de retrouver tous les postes qui sont associés. Et en fait, l'idée de ce poste-là, c'était de dire, mais essayez d'aller le moins possible au supermarché. Alors, est-ce que j'y arrive? Tout ce qui est alimentaire chez moi est acheté au marché, ou chez le primeur, ou chez le boucher, ou dans une ferme. Aujourd'hui, on a plein de solutions. On a des tas de jeunes qui se sont lancés et qui font des paniers à emporter. Je pense à Julie, mon panier de campagne, par exemple, c'est quelque chose de génial. Et vous y trouvez du poisson qui va être pêché en respectant toutes les normes. Vous y trouverez de la viande, vous y trouverez tout. Elle a tout, des légumineuses. On a en région des farines qui sont produites dans le Lauragais. On a des lentilles, des pois chiches, des pois cassés. Enfin, on trouve tout, en fait. On n'a pas besoin d'aller acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde.
Vous êtes aujourd'hui donc aussi chroniqueuse sur France Bleu Occitanie, dans le cadre de la matinée, aux environs de 10h, on peut vous entendre là.
Oui, c'est La Vie Gourmande.
La Vie Gourmande, voilà. Ça vous arrive aussi donc d'être invitée sur France 3. On va parler un tout petit peu de vous, parce qu'au départ, en fait, vous êtes juste Mams, qui aime cookies, je ne sais pas si ça se dit comme ça.
Oui.
Comment ça vous est venu un peu l'idée de ce blog?
Alors, en fait, je suis une passionnée de cuisine, je crois, depuis toujours. Déjà parce que je suis gourmande, je suis une épicurienne. J'aime aussi faire plaisir aux gens qui m'entourent. Je trouve que la nourriture est un moyen fabuleux de faire plaisir. Alors, ça m'est venu tout simplement parce que j'avais des amis qui me demandaient souvent des recettes ou qui m'appelaient en me disant « Je sais pas quoi faire, j'ai du monde, qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Le week-end prochain, j'ai des amis qui viennent, comment est-ce que je pourrais faire ce plat-là » Puis un jour, je me suis dit quand même, à force de tout écrire sur des bouts de papier, quand même, si tu mettais ça en ligne, ce serait pas mal. Donc, j'ai pas mal fouillé.
Vous avez bossé, en fait. Hein. Vous avez préparé votre coup.
Ah oui, j'ai bossé pendant plus d'un an pour trouver quel plat... Enfin, j'étais pas très douée en informatique, en tout cas, pas plus que ça. Donc, il a fallu que je m'informe sur les hébergeurs de plateformes, donc de blogs, pour pouvoir voir quel était l'hébergeur qui me convenait le mieux. Et puis, j'ai été voir... j'ai été voir la concurrence d'une certaine façon, qui ne l'était pas encore, mais j'ai été voir ce qui se faisait sur les blogs et ce qui, moi, me manquait sur ces blogs-là. Et ce que j'y ai trouvé que je n'aime pas, c'est de la publicité qui s'ouvre tout le temps. Sur mon blog, il n'y en a pas. Je déteste ça. J'aime pas toutes ces fenêtres qui s'ouvrent sur des tas de produits, en plus, qui sont quelquefois complètement... à l'opposé de ce que je veux véhiculer comme message, donc ça n'a pas de sens pour moi. Et puis j'y ai rajouté toutes ces rubriques, tout savoir ou presque sur, que ce soit sur une fête, sur une tradition culinaire, sur un produit, sur une technique culinaire aussi. Voilà.
Et puis des interviews plus prolongées, peut-être qu'on y reviendra. Alors, dans la vie civile, donc vous êtes donc Nadine Barbotin, vous êtes mariée, vous êtes mère de famille. Il ne s'agit pas forcément de raconter votre vie, mais il y avait deux points qui peut-être sur lesquels on pourrait s'arrêter, qui éclairent aussi vos engagements. On y reviendra après dans cette émission. Engagement donc comme consultante culinaire, mais pas que. Hein. J'ai dit que vous étiez donc présidente de l'AZEI. AZEI, c'est Agir, Soigner, Éduquer. Inclure, c'est donc une association donc d'établissements médico-sociaux et sanitaires destination des personnes handicapées. Si on reste juste sur le volet culinaire, vous avez, semble-t-il, des grands-mères qui vous ont marqué et qui vous ont transmis bien des choses et qui, elles, avaient l'art de la cuisine, on va dire, dans les veines.
Oui, j'ai la chance d'avoir eu deux grands-mères, alors avec deux histoires de vie très différentes. Une qui était d'origine espagnole et qui avait immigré en France et qui s'était mariée avec un homme qui, lui, venait de Flandre, donc vraiment un croisement assez intéressant et qui m'a transmis le goût de la cuisine. Alors, elle faisait une cuisine qui était très espagnol. Donc, il y avait beaucoup de fritures, il y avait beaucoup de choses comme ça, mais c'était toujours gourmand, c'était toujours fait avec... je crois que toutes les deux, elles avaient ce côté de faire la cuisine avec amour. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quant à mon autre grand-mère, là, on est plutôt sur les bords de l'Atlantique, en Loire-Atlantique. Et là, on allait à la pêche, on ramassait... Les carottes dans le jardin, elle faisait un saumon de Loire au beurre blanc qui était mais une merveille incroyable. Et quand j'allais en vacances chez elle, je passais mon temps à cuisiner avec elle. J'allais chercher le lait à la ferme, on faisait du riz au lait qui était mais juste fabuleux. Enfin, c'est des souvenirs gustatifs qui sont associés à l'amour de ces femmes qui étaient vraiment deux femmes exceptionnelles.
L'autre chose peut-être à tirer de votre vie personnelle qui peut expliquer votre engagement, c'est que vous avez des enfants, m'avez-vous dit, à haut potentiel, enfants précoces. Ça veut dire que ça vous a en fait sensibilisé à la différence. Ça vaut le coup peut-être de s'arrêter dessus, puisque le monde du handicap, je ne dis pas que les enfants précoces sont forcément des enfants handicapés, quoique parfois c'est comme ça qu'on le vit. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça?
Oui, alors j'ai quatre enfants qui sont ma fierté, parce que je suis très attachée à la notion de la famille. Je suis, la famille pour moi, c'est essentiel, c'est l'ancrage. Et sans ça, on ne tient pas bien debout. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est capital. C'est là où on peut se ressourcer. Alors, j'ai quatre enfants, un garçon et trois filles. Et puis, il s'est avéré qu'assez tôt, on s'est rendu compte, enfin moi je trouvais qu'ils avaient un fonctionnement tout à fait normal, mais j'ai été alertée par certains enseignants qui m'ont amenée à me poser des questions, on a fini par voir qu'en fait c'était des enfants précoces, dyslexiques, enfin bon il y avait un petit cocktail assez sympa, et ce qui m'a amenée à me, moi j'ai toujours estimé que c'était une différence et que dans cette différence, il fallait faire une richesse et non pas voir ça comme quelque chose de dramatique. Contrairement effectivement à certains enfants, donc je me suis très vite engagée en termes d'association dans l'Association française des enfants précoces. Je crois que j'ai un ADN fait pour l'engagement, quel qu'il soit. Et dans cette association française pour les enfants, enfin des enfants précoces, j'ai suivi des formations et j'ai assuré des permanences téléphoniques pendant quelques années. Ce qui était très intéressant parce que il y avait vraiment une vraie détresse chez certains parents qui ne savaient plus du tout comment affronter leur enfant.
Donc ça vous a sensibilisé à la différence, parce que le monde du handicap, on y reviendra après la pause musicale qu'on va faire dans quelques instants. En fait, vous disiez, pour vous, les personnes handicapées, c'est juste des personnes différentes.
Oui, c'est des personnes différentes. Alors, ceci étant dit, je pense que, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre les deux. Disons qu'en tout cas, j'ai une vraie sensibilité à trouver que on a le droit de ne pas être tous pareils. Et d'ailleurs, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui vont être grands, d'autres qui vont être maigres, d'autres qui vont être ronds, d'autres qui vont être gros même. Il y a des hommes qui vont perdre leurs cheveux, d'autres ne vont pas les perdre, des femmes qui vont... Enfin voilà, on est tous différents. Alors effectivement, il y a des différences qui sont plus lourdes à porter. Et je pense que si on peut accompagner un tout petit peu quand on a la chance d'aller bien, d'accompagner ceux qui ont des vraies différences, je pense que c'est important.
Allez, on va faire une pause et puis on va vous retrouver. On va parler de votre engagement au sein de l'ASEI et puis d'une opération à laquelle vous participez en ce moment, donc qui est menée par le département de Haute-Garonne, s'appelle Direct Fermier 31. Il s'agit donc de mettre en valeur les producteurs locaux et de faire en sorte qu'on se tourne d'abord vers eux.
Thank you.
Nadine Barbotin, cuisinière au grand cœur, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce vendredi. Comme souvent le vendredi, on rencontre quelques personnalités. Là, en l'occurrence, c'est vous. Donc, vous êtes auteur d'un blog qui s'appelle Mom's Cook, un blog qui monte, qui fait de vous donc une influenceuse culinaire. Et vous êtes par ailleurs consultante, chroniqueuse culinaire et présidente donc de l'ASEI, association donc du monde médico-social et sanitaire pour les personnes porteuses d'un handicap. Alors finalement, on va commencer par rester, on va dire, à continuer à parler nourriture et production et cuisine, je vous propose, avant de parler de la l'ASEI. Donc il y a une opération qui a été montée récemment donc par le département de Haute-Garonne, qui s'appelle Direct Fermier 31. Vous y participez comme consultante. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette opération qui fait suite en fait à la crise sanitaire, c'est ça, hein?
Alors en fait, le département a souhaité rassembler dans un annuaire l'ensemble des producteurs du département. La Haute-Garonne, c'est un vrai bassin, comme toute la région Occitanie d'ailleurs. On a vraiment une chance en termes d'agriculture d'avoir un bassin, enfin un territoire qui est juste incroyable.
Alors là, j'ai vu, c'est 340 producteurs quand même, hein.
Ouais, c'est énorme, hein. C'est énorme et ça touche tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir du viticole, il va y avoir des maraîchers, il va y avoir des personnes qui sont plus dans l'agriculture mais qui vont faire des lentilles, des pois chiches, de la farine. Il y en a qui vont faire des fruits, des légumes, enfin tout y est. Et l'idée, c'était de répertorier tous ces producteurs pour que si on veut un produit, ben, on cherche dans l'annuaire et on trouve où on va le chercher.
Alors, il faut dire que c'est très bien fait. Il y a une carte interactive. Mmh. On trouve donc 640 points de vente aussi. Donc, il y en a plus que de producteurs. Preuve qu'on n'est pas obligé d'aller à la ferme aussi. Ça vaut le coup peut-être de le préciser. Alors, vous, au milieu de ça, allez, si vous deviez d'abord nous présenter l'un ou l'autre producteur que vous connaissez, si vous êtes même allé chez lui, un ou deux coups de cœur qui nous aident, nous les gens de la ville, on n'est pas écouté qu'en ville, hein, mais certains auditeurs sont en ville. On est écouté dans une partie de la région. Mais bref, emmenez-nous avec vous chez l'un ou l'autre producteur.
Écoutez, moi je travaille beaucoup quand je travaille, parce que c'est pas la première fois que je travaille avec le conseil départemental de la Haute-Garonne. Je travaille beaucoup sur les produits. Il y a 6 produits labellisés sur ce département. On a l'ail violet de Cadour, on a le haricot tarbé, le noir de Bigorre, la gasconne des Pyrénées, le fronton, et il m'en manque un. Vous voyez, je suis de mémoire,
ça va revenir,
je vous dirai le dernier après.
Alors, si vous deviez vous arrêter sur un, peut-être.
Mais je ne sais pas, je vais m'arrêter sur l'ail violet de Cadour. L'ail violet de Cadour, c'est on est à cheval entre la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Gers. On a des producteurs là. Alors, il y a une route de l'ail violet. Donc, je vous invite au beau jour à faire cette route de l'ail violet, parce que vous y découvrirez des producteurs qui, quelquefois, ont des chambres d'hôtes en plus, quelquefois font des canards gras en plus. Enfin, voilà. Et vous y verrez comment, de façon traditionnelle, depuis très longtemps, cet ail est le premier ail AOP qu'on ait. Il est violet parce qu'il pousse sur un territoire, sur une terre qui a une particularité dans sa composition, parce qu'il y a du vent, une humidité à certains moments de sa pousse. C'est-à-dire que là, bientôt, il va y avoir beaucoup de pluie. Après, il y aura beaucoup de vent. Et c'est ce qui va faire que là, il sera violet. Et vous prenez le même ail. Vous allez le planter ailleurs. Vous aurez de l'ail, mais il ne sera pas violet. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Surtout que cet ail, il a une autre particularité. C'est que si vous le goûtez cru, il est très piquant. Mais vraiment très très piquant, c'est le plus piquant des os. Et si vous le faites cuire, si vous le faites confire, et là c'est simple, vous prenez une tête d'ail, vous la coupez aux deux tiers, et vous mettez ça au four avec un filet d'huile d'olive dessus, vous laissez confire à petit four tranquillement, et vous mangez l'ail, vous mettez un peu de fleur de sel, vous mangez ça à la petite cuillère, et vous avez un ail qui est presque sucré une fois qu'il est confit. Incroyable.
Alors, avec donc cette opération Direct Fermier 31, donc vous proposez des recettes.
Oui.
Je ne sais pas si là c'est une recette. Non, c'est pas une recette.
Ce que je viens de vous dire, non. Non. C'était juste voilà un petit truc que je vous donnais comme ça.
J'espérais que vous ne coupiez pas l'herbe sous le pied vous-même.
Non.
Alors, une des recettes, c'est-à-dire en fait, vous travaillez à mettre en valeur et cette opération.
Oui.
Et tous ces producteurs, c'est ça?
Exactement. C'est-à-dire que le conseil départemental et plus précisément l'équipe agriculture du conseil départemental m'a contactée en me demandant si j'acceptais de travailler avec eux et si je pouvais faire des recettes qui valoriseraient ces produits-là. Les produits qu'on retrouve dans l'annuaire Direct Fermier 31.
Alors, un exemple de recette?
Un exemple de recette, on a fait, justement avec l'ail violet, on a fait un arroz blanco. Un arroz blanco, c'est une soupe à l'ail, mais c'est une soupe froide, c'est un gazpacho espagnol. Donc ça se fait avec du pain, comme un gazpacho, du pain, de l'huile d'olive, des amandes, de l'ail. Et on mixe tout ça avec de l'eau et on obtient quelque chose qui est juste délicieux.
Et donc, allez, une deuxième de recette.
Une deuxième, bien on a fait avec le haricot tarbé, on a fait une soupe italienne au haricot tarbé. Donc on a fait cuire nos haricots un peu comme si on avait fait un minestrone. On a fait cuire nos haricots avec plein de petits légumes qu'on avait taillés de la même taille que le haricot, de façon à ce que ce soit bien, bien harmonieux. Et on a mis de la sauge à l'intérieur. Et le goût de la sauge s'est diffusé et c'était juste délicieux. Voilà.
On peut dire aussi, c'est l'occasion d'élargir un tout petit peu au-delà de la Haute-Garonne. Ça n'est toujours pas, c'est pas toujours très, très connu. Mais le monde agricole, c'est donc la première activité économique de l'Occitanie.
Oui.
Et moi, j'ai découvert en préparant l'émission qu'en fait, l'Occitanie, c'est un territoire extraordinaire.
Ah oui.
Pour la nourriture et pour la production agricole. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples?
Oui, c'est-à-dire qu'on a une chance incroyable. On vit sur un territoire qui est excessivement riche. C'est la région de France, je crois même d'Europe, où il y a le plus de produits labellisés. Ce qu'on appelle les produits labellisés, c'est label rouge, IGP, AOP.
243.
Voilà, on est, si vous prenez le fromage, c'est vrai qu'on a l'habitude de penser que on n'est pas une grande région de fromage. On se dit c'est la Savoie, Haute-Savoie, c'est dans ces coins-là qu'il y a beaucoup de fromage. Pas du tout. On est la région de France où il y a la plus grande variété et de lait et de fromage. En Occitanie, vous avez du lait de chèvre, du lait de brebis, du lait de vache. Et vous avez tout un mix possible de fromage autour de ça. Donc, on a vraiment une richesse sur ce territoire. Au niveau viticole, c'est pareil. On est la première région d'Europe viticole. C'est juste incroyable.
Premier vignoble au monde, ai-je lu, AOP, IGP.
Oui, si vous prenez que les AOP, IGP, oui. Donc on a quelque chose à valoriser parce que sur tous ces produits, on a derrière des hommes et des femmes qui contribuent à maintenir des territoires en vie, qui contribuent à maintenir nos campagnes en vie. Et puis on a aussi, ce sont des hommes et des femmes qui quelque part sont les maillons d'une chaîne de transmission.
D'ailleurs, vous allez au salon de l'agriculture, non, pour les représenter ou les soutenir, c'est ça?
D'habitude, j'y vais, oui, souvent.
Pour l'Occitanie.
Alors, j'y vais, je travaille souvent avec les calivores d'Occitanie et puis je travaille aussi avec le conseil départemental de la Haute-Garonne. Cette année, malheureusement, on n'y a pas été, mais j'espère y aller l'année prochaine.
Donc, vous faites quoi? Donc, vous êtes au salon de l'agriculture et devant tout le monde, vous faites la cuisine pour valoriser
exactement,
les produits, c'est ça?
Exactement, et j'explique les produits aussi. Et c'est vrai que si on revient à ces hommes et ces femmes, on a des produits. Si je prends, par exemple, le noir de Bigorre, qui est quand même un cochon incroyable, c'est une race qui a failli disparaître. Dans les années 70, on a voulu industrialiser l'agriculture, on a voulu du rendement. Et quand vous avez un cochon qui passe ses journées à se promener tranquillement à manger les herbes qu'il trouve, les glands qu'il trouve sur son passage, effectivement, ça ne fait pas tellement agriculture intensive. Et au moment où, où certains hommes se sont dit, certains producteurs se sont dit quand même c'est dommage, il ne restait plus que 4 cochons. Aujourd'hui, on a un produit qui est labellisé, qui a un jambon labellisé et qui fait quand même la fierté de notre région.
Alors, je ne sais pas si on passe du coq à l'âne, mais en tout cas, il y a un autre engagement que je voulais souligner qui parle donc de la femme que vous êtes, cuisinière au grand cœur, il y a aussi grand cœur, c'est donc l'ASEI. Ça vaut le coup aussi de mettre un coup de zoom sur cette réalité. Donc, c'est une association, c'est un acronyme pour agir, soigner, éduquer, inclure. Et j'ai découvert, donc grâce à vous, que c'était en fait quelque part le plus gros réseau d'établissements médico-sociaux et sanitaires en fait d'Occitanie ou presque.
Oui. C'est une association qui est née dans les années 50 à peu près, il y a 70 ans. Quelques hommes qui étaient pour la plupart enseignants ou en tout cas en lien avec l'enseignement public ont décidé de créer une association parce que les enfants qui avaient la poliomyélite ne trouvaient pas de place dans l'école.
La poliomyélite, c'est la polio donc. Hein.
C'est ça, c'est la polio. Ne trouvaient pas de place dans l'école classique. Alors c'est amusant, enfin ce qui est étonnant plutôt, c'est que à cette époque-là, au lieu de se battre pour qu'ils aient leur place dans l'école classique, on est parti du principe qu'on allait créer quelque chose pour les accompagner eux. Donc l'ASEI a été créée à ce moment-là et c'était l'association pour la sauvegarde des enfants invalides. Et puis les années ont passé, le vaccin contre la polio heureusement est arrivé. L'association a grandi puisque ses enfants ont vieilli. Et puis, petit à petit, elle est restée une association qui accompagne les personnes. Aujourd'hui, plus de 10 000 par an.
10 000 enfants.
10 000 personnes.
Personnes par an.
Personnes au sens large du terme. D'accord. Aujourd'hui, on accompagne du bébé à la personne âgée. On accompagne au sein d'établissements, mais on accompagne aussi au sein de services à domicile, de services d'accompagnement de toutes sortes. Et puis, on accompagne aussi au travers de plateformes. Ça, c'est des dispositifs très nouveaux. Mais on accompagne aussi au travers de ces plateformes des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour retrouver de l'emploi ou pour aller vers l'emploi ordinaire. Et voilà un petit peu ce que fait cette association.
Alors, on a vu... on pouvait trouver dans la presse, j'ai trouvé un article donc, de La Dépêche, qui datait du printemps dernier, où le directeur donc général de l'ASEI...
Oui, Philippe Jourdi.
Voilà, parlait un peu de la crise sanitaire. Vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, la manière dont ça a été vécu dans les établissements? Vous direz que c'est probablement très variable en fonction des publics, peut-être?
Oui, alors globalement on a plutôt, entre guillemets, bien passé la vague, je dirais. Avec cependant une vraie difficulté aujourd'hui qui n'est pas en fait de la façon dont nous on a géré, mais qui vient plutôt des décisions gouvernementales qui sont liées au Ségur de la santé. C'est-à-dire que notre association fait partie d'un mouvement qui s'appelle, d'une fédération qui s'appelle la FEAP, qui regroupe les établissements non lucratifs. C'est-à-dire qu'on est une association et on ne fait pas de bénéfices. Donc ça déjà, c'est un peu suspect, surtout quand on a près de 3400 salariés, effectivement. Mais sorti de là, le gouvernement a beaucoup communiqué sur ce Ségur de la santé en disant que, il y avait des augmentations salariales pour tous les personnels qui avaient été en première ligne. Or, tout le champ du non lucratif a été exclu du Ségur de la santé. Donc, le public, c'est-à-dire les établissements, le sanitaire public a été mis.
Pas de revalorisation salariale chez vous?
Non, ce qui pose une vraie difficulté parce que si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve à être quelque part en concurrence avec d'autres secteurs qui sont le secteur public notamment. Et que quand on veut recruter quelqu'un, il faut bien comprendre que si vous cherchez du travail, vous irez là où vous aurez le meilleur salaire. Et donc là, il y a un vrai problème. Autrement, on a près de 3400 salariés qui ont assuré vraiment sur cette période compliquée. Et vraiment, je leur ai déjà dit, mais je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont vraiment été en première ligne. C'est-à-dire qu'il a fallu innover, il a fallu trouver les moyens d'accompagner autrement. Notamment, il y a un an, quand on nous a dit on ferme tout, ok. Mais quand vous accompagnez des personnes qui sont en grande difficulté, on fait comment ?
Votre directeur laissait entendre dans cet article qu'il y avait près d'un salarié sur cinq ou d'intervenants de la ZEIC donc qui travaille donc pour cette association qui a changé de fiche de poste en fait.
Complètement. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui ont eu une capacité à aller aider dans l'établissement d'à côté s'il y avait un besoin. On a des salariés qui ont innové, qui ont accompagné autrement au travers de coups de téléphone, enfin vraiment, il y a eu une vraie remise en question et une véritable, je dirais, innovation dans l'accompagnement. En fait, on parle toujours d'innovation dans tout ce qui touche l'industrie. Mais on ne le sait pas suffisamment. Il y a aussi de l'innovation dans tout ce qui touche à l'accompagnement et dans ce secteur médico-social.
Alors, parmi les choses qui tiennent à cœur de cette association, c'est donc d'agir pour la transformation de notre société, donc aider à changer de regard, m'avez-vous dit. D'ailleurs, je crois qu'il est cité plusieurs fois quand on se balade sur votre site internet, donc la loi de l'inclusion pour l'inclusion de 2005, hein, qui est
oui.
Une vraie révolution, on va dire, dans le monde du handicap, mais peut-être dans toute la société française.
Dans la société.
Voilà, qui fait que donc depuis 2005, il y a une obligation de scolarisation
oui.
des enfants handicapés.
En milieu ordinaire, exactement. Ouais. Donc nous, on travaille vraiment là-dessus. Je crois qu'on est... On a plus de 50% des enfants ou à peu près 50% des enfants qu'on accompagne en milieu ordinaire. C'est-à-dire que si vous voulez, un enfant qui a un handicap va pouvoir bénéficier de plusieurs types d'accompagnement. Soit il va être dans un établissement parce que son handicap fait qu'il ne peut vraiment pas être en milieu ordinaire. Soit il va être à temps choisi entre le milieu ordinaire et le monde plutôt du médico-social. Soit il va être en milieu ordinaire dans une classe, mais une classe d'enfants en situation de handicap. Ou alors il va être dans une classe ordinaire, dans une école ordinaire. Donc il y a vraiment toute une palette de possibilités qui sont offertes et un accompagnement qui va se faire le plus à la carte possible. Et ça, c'est essentiel pour les familles et pour ces enfants.
Si cette loi du 11 février 2005 revient souvent, quand on se balade sur votre site, c'est que vous pensez que c'est quoi ? Que c'est une mini-révolution pour la société française ?
Mais disons que si vous voulez, il faut longtemps pour qu'une loi puisse vraiment... se déployer et rentrer infusée dans la société. Ces lois-là, elles changent complètement la donne, en fait. Et en changeant la donne, il faut réussir, en parallèle de ça, à changer le regard de tout un chacun. Parce qu'on peut décréter quelque chose, mais ce qui va compter, c'est comment les autres enfants vont l'accepter. C'est comment les familles autour vont l'accepter. Alors, les autres enfants, souvent, il n'y a pas de problème. Mais quand on met un enfant en situation de handicap dans une classe, il faut forcément l'accompagner. Ça coûte pas moins cher à la société, entre guillemets. Parce que derrière, il y a ça aussi, quand même. Il va vraiment falloir l'accompagner. Et puis, quand dans une classe, vous en avez 3, 4 ou 5, après, il y a le problème de l'enseignant face à ses enfants. Donc, il y a beaucoup de choses derrière cet accompagnement au milieu ordinaire. Alors c'est vrai que nous, on est au rendez-vous parce que nous, on y croit. On croit vraiment que c'est tout à fait possible parce que pendant des années, on a regardé le handicap. D'ailleurs, on regardait le handicap et on ne regardait pas la personne qui a le handicap. Or, derrière chaque personne handicapée, il y a une personne, comme vous et moi, et elles ont aussi une capacité à devenir un citoyen comme les autres et à être dans l'autonomie.
On va faire une deuxième pause et puis après on va aborder des choses plus personnelles. Je redonnerai les coordonnées pour l'ASEI pour ceux qui voudraient mieux connaître cette réalité. Et puis évidemment on donnera le nom de votre blog Mams Cook. Vous me direz c'est facile, Mams Cook. Et on fait une deuxième pause et on vous retrouve dans quelques instants. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Nadine Barbotin, cuisinière au grand cœur, c'est donc le thème de cette émission et de cette rencontre en ce vendredi matin. Donc Nadine Barbotin, pour ceux qui nous rejoindraient, est auteur d'un blog qui s'appelle Mams Cook. Mams pour maman en anglais et cook pour cuisine. Consultante et chroniqueuse culinaire et donc présidente de l'ASEI, dont on a parlé juste avant cette pause, donc association d'établissements médico-sociaux et sanitaires, enfin d'accompagnement médico-social et sanitaire de personnes donc porteuses d'un handicap. Comme dans ces émissions rencontres, à la fin de l'émission, je pose des questions plus personnelles. Pas de surprise, vous étiez prévenu. Alors, on imagine que vous vous levez en partie pour cuisiner, mais pas que, on espère. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin, Nadine Barbotin ? Je vous ai posé la question il y a quand même quelques, on va dire, il y a quelques jours, donc vous avez eu le temps peut-être d'y réfléchir depuis.
Pourquoi je me lève le matin ? Qu'est-ce que j'attends de la journée ? Déjà, je suis plutôt quelqu'un de très optimiste. Et j'espère que chaque jour, quand je me lève le matin, j'espère qu'au moment où je vais me coucher, j'aurai fait quelque chose d'intéressant. J'ai besoin, je suis un peu hyperactive quand même, hein. Donc j'ai besoin de faire des choses et des choses qui ont du sens. Donc le sens dans ma vie, il a beaucoup d'importance. Si les choses me semblent futiles, je les fais pas en plus. J'aime pas. Donc voilà. Donc il faut vraiment que le matin, quand je me lève, je me lève avec entrain et avec l'envie de faire des choses.
Vous disiez donc que vous étiez une femme d'engagement, donc vous avez eu de nombreux engagements associatifs, hein, il ne s'agit pas là de tous les citer. On lit des choses contradictoires comme ça sur l'engagement, par exemple les Français ont été très généreux, on va dire financièrement à l'occasion de cette crise, oui. Ils le sont plus qu'on imagine souvent. Il y a beaucoup de bénévolat et pour autant, on parle d'une société morcelée, de plus en plus individualiste, alors quel est votre regard un peu ?
Je pense qu'il y a plusieurs types d'engagement. Alors moi, je suis quelqu'un capable de m'engager sur du long terme tant que j'y trouve du sens. Hein, c'est toujours la même chose. À partir du moment où j'y trouve plus de sens, c'est terminé. Hein, je suis plus au rendez-vous. Mais c'est vrai que je crois que pour beaucoup de personnes, l'engagement peut être ponctuel. C'est-à-dire que les gens sont prêts à aider, à faire quelque chose, mais pas forcément sur du long terme. Si on prend l'ASEI... Moi, je suis, en tant que présidente de l'association, je suis une bénévole, hein, tout simplement. J'y suis rentrée en 2010, je suis présidente depuis 2014. C'est un engagement sur du long terme. Mais pour moi, c'est un engagement qui a beaucoup de sens, donc qui me tient à cœur profondément.
Donc vous dites des Français généreux, mais qui tiennent moins la longueur qu'avant, c'est ça ?
Peut-être, c'est peut-être ça. Je ne sais pas, hein, mais par contre, dire qu'il n'y a plus de volonté d'engagement, je pense que c'est pas vrai. Je pense que les gens s'engagent, mais de façon différente, surtout.
Pourtant, ça vient de me dire que pour vous, de valoriser l'engagement, c'était aussi comme un combat, c'est-à-dire qu'il oui. faut montrer l'exemple, c'est ce qu'on entend derrière.
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs leviers pour agir sur la société dans laquelle on est. Alors bien sûr, on pense tout de suite au levier politique, c'est-à-dire qu'on peut s'engager dans la politique et avoir une action sur la cité, au sens grec du terme. Et puis, ben, quelquefois, on peut aussi tenter d'avoir cette action, en tout cas de vouloir faire évoluer modestement à son échelle la société au travers d'engagements. Quand vous disiez tout à l'heure que l'ASEI avait une vraie volonté d'agir sur la société, eh bien, une association peut, par ses actions, par ses prises de position, agir effectivement sur la société. Au sein de l'ASEI, moi, je souhaite qu'il y ait une vraie place qui soit faite aux personnes en situation de handicap et que tout en étant dans le respect de ce que souhaitent ces personnes, quand je suis Mams Cook, modestement, à mon échelle, j'œuvre pour qu'il y ait davantage de respect sur la saisonnalité, sur les hommes et les femmes qui produisent des produits de qualité dans notre proximité, pas loin de chez nous, et que quelquefois on oublie pour aller chercher des produits qui viennent du bout du monde et qui sont nettement moins bons.
Donc, vous vous levez le matin parce que vous cherchez du sens, parce que vous avez besoin d'être occupé, à vous entendre et puis de vous donner. Oui, je vous avais demandé aussi de choisir l'une ou l'autre lecture qui illustre un petit peu, on va dire, qui vous êtes. Alors, vous m'en avez sorti un, hein, je vous avouerai que j'en avais jamais entendu parler.
Oui, je ne suis pas surprise, mais voilà. Pourtant, il m'est venu tout de suite. Hein. Vous avez vu que c'était spontané.
La saga des Béotucs. Ouais. Alors, ça a l'air d'être un drôle de livre qui semble-t-il est à mi-chemin entre la réalité, la fiction, et qui parle donc d'une tribu disparue de l'île de Terre-Neuve.
Exactement. C'est un livre d'ailleurs, je voulais amener pour vous le montrer. Voilà.
Alors je suis le seul à le voir, mais les auditeurs vont dire, verront à travers mes yeux, on y croit.
Voilà, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. En fait, c'est un livre qui retrace la disparition d'un peuple et d'une certaine façon un génocide d'une tribu d'Indiens d'Amérique. Et ce que je trouve intéressant...
Écrit par un Indien, il faut peut-être le dire. Hein.
Ah oui, complètement.
Bernard Assiniwi, c'est ça ?
Assiniwi. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans ce livre, à mon sens, c'est qu'on y trouve le meilleur et le pire de l'homme. Et c'est vrai que...
Racontez-nous un tout petit peu l'histoire, peut-être, du coup.
Eh bien, c'est un jeune homme qui va faire le tour de son île à la rame, hein, sur son canot, voilà, et qui, à un moment, dans son environnement qui est habituel, va découvrir les colons qui sont arrivés, qui ont accosté à un endroit. Donc, lui est interpellé, va aller vers eux, et eux vont... être très intéressés, mais pas intéressés dans le bon sens du terme, et vont le pourchasser et vont anéantir complètement ce peuple des Béotucs. Il faut savoir que les Béotucs est un peuple qui a réellement existé. C'est pas, enfin voilà, on est sur un roman, les choses sont écrites, voilà, mais c'est vraiment un peuple d'Amérique du Nord qui a existé et qui a disparu, qui a été complètement anéanti par les colons. Voilà. Donc je trouve que derrière cette lecture-là, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, c'est celui qui m'est sorti spontanément quand vous m'avez posé la question. Je vous dis, il y a ce qu'il y a de beau de l'homme qui vit en harmonie avec ce qui l'entoure, qui vit en harmonie avec la nature, avec cette terre où il est. Et puis, il y a le pire de l'homme qui va être capable d'arriver et par envie, par méconnaissance, par incapacité de s'intéresser à l'autre, à sa différence, justement, de le réduire à néant. Et donc, voilà, c'est ce que j'aime dans ce livre. Alors, je vous invite vraiment à le lire. Hein.
Oui, on peut donner les éditions, peut-être ?
Oui, alors, c'est Babel.
Voilà, les éditions, ouais. Babel, et donc le titre, rappelez-le, c'est...
La saga des Béotucs.
La saga des Béotucs. Le deuxième livre qui est plus connu que vous avez choisi, André Malraux, La condition humaine.
Oui, mais là, c'est la même chose. Je pense qu'en fait, j'ai pas réagi, mais après, en y réfléchissant, je me suis dit... Mais
vous tournez autour du pot.
Oui, c'est ça, exactement, puisque là, on est pareil. Alors, c'est quand même un livre... Lui, il a eu le prix Goncourt, donc quand même, déjà, on se dit, bon... Puis c'est André Malraux qu'on connaît bien, donc voilà, on est sur... sur une histoire un petit peu différente. On est en Chine, on est une révolution... qui est menée par Chiang Kai-shek, et puis la volonté d'un soulèvement, puisqu'on est en pays communiste. Et puis, au dernier moment, quand même, au moment où tout ce soulèvement des ouvriers est organisé, eh bien, celui qui était à la manœuvre et qui avait demandé ça décide tout à coup que non, il va tuer ces ouvriers à qui il avait demandé de se soulever. Donc, il y a vraiment là aussi la perversité de l'homme et jusqu'où il va, quoi. Jusqu'où il va, jusqu'où il peut aller, puisque réprimer en fait un soulèvement qu'on a organisé, c'est quand même assez étonnant. Voilà. Et puis, mais la façon dont l'homme peut exister, est-ce qu'il existe à travers une posture politique en faisant la révolution? Est-ce qu'il existe à travers l'art? Est-ce qu'il existe à travers l'amour? Comment est-ce qu'on existe? Qu'est-ce qui fait que l'homme est l'homme, en fait, quelque part ? Je trouve que c'est un livre qui est vraiment très intéressant et qui est, je dirais, alors il n'est pas facile à lire pour le coup. Autant la saga des Béotucs, je trouve, est assez simple à lire, assez fluide. Là, on est quand même sur un livre qui est très séquence. Enfin, c'est des plans qui se superposent les uns aux autres. Bon, c'est peut-être un peu plus ardu.
Nadine Barbotin, donc sur une radio comme la nôtre, ça ne vous surprendra pas. En plus, vous étiez prévenue. si je vous demande si vous croyez en Dieu, qu'est-ce que vous répondez ?
C'est une question intéressante. Hein. Je suis une humaniste convaincue. Je crois profondément en l'homme. Quoi qu'il lui arrive, malgré ce qu'il peut faire de plus moche, je crois en l'homme. Parce que je suis je pense que l'homme est la solution à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes de la société, même si c'est des problèmes qui sont issus de l'homme, vous voyez. Donc tout ça est assez compliqué. Je suis une catholique non pratiquante. Est-ce que je crois en Dieu? Je crois que c'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu.
Ma dernière question, ça serait: quel regard vous portez sur l'Église, et puis si c'est pas l'Église en général, sur par exemple le pape François?
Mais l'Église, pour moi, j'associerais ça à une maison où on peut se retrouver parce que ça a du sens de se retrouver ensemble, parce qu'on croit aux mêmes choses ensemble et que du même coup ça prend sens d'être ensemble et de se retrouver. Le pape, je dois dire, je vais utiliser une expression un peu triviale, vous m'en excuserez, mais je l'ai trouvé gonflé quand même. Il est allé quand même en Irak. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un voyage. Vraiment, ces chrétiens d'Orient qui sont là depuis toujours, parce qu'ils sont là depuis très 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 longtemps, qui avaient vraiment été abandonnés, entre guillemets, qui sont réprimés, pour pas dire un autre mot. Je crois que c'était vraiment un beau geste que d'aller là-bas. Et que c'était un geste vraiment de tendre la main vers eux. Et
de leur signifier qu'ils sont dans la maison, c'est ça ?
Oui, et de leur dire: vous êtes dans la maison, vous aussi. Vous n'êtes pas en dehors de la maison parce que vous êtes au Moyen-Orient.
Vous diriez que c'est une figure qui contribue quoi, à vous rendre l'Église sympathique, à vous réconcilier avec l'Église, à vous donner envie de...
Moi, je trouve que... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être réconciliée avec l'Église. Hein. Je suis, je pense que tout homme doit, pour être heureux, avoir une spiritualité. Par contre, je suis une laïque dans le sens où je pense que tout homme doit avoir le droit à avoir sa spiritualité, mais que sa spiritualité, ne doit pas empiéter sur celle du voisin. Et je ne supporte pas ça aujourd'hui, de voir certaines spiritualités qui veulent aller, ou certaines religions qui veulent en imposer aux autres. Ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que chacun doit rester à sa place.
Eh ben, merci Nadine Barbotin d'avoir fait un détour par nos studios.
On peut donner
quelques infos à la fin de cette émission. Donc, votre blog, c'est mamscook.fr.
.com.
M-A-M-S-C-2-O-K.
Oui.
.com. Et puis pour l'ASEI, qui est donc cette association dont on a parlé, www.asei.asso.fr. C'est bien ça.
Exactement, association reconnue d'utilité publique. Vous y trouverez plein d'informations et vous trouverez également toute une plateforme avec de beaux projets à soutenir.
Merci beaucoup Nadine Barbotin.
Merci à vous de votre accueil.
À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.